Je vous invite ce matin à poursuivre notre série de prédications dans l'évangile de Luc. Et donc d'ouvrir vos Bibles au chapitre 10. Ou de préparer vos smartphones, parce que maintenant on lit aussi la Bible sur les téléphones. Au chapitre 10. À l'occasion, on coupe les portables, c'est bien. Et c'est l'esprit qui fait bien les choses, peut-être, parce que Philippe nous a parlé de Nicodème. Donc on voit un docteur de la loi qui s'approche de Jésus timidement, secrètement, dans la nuit. On apprend aussi que Joseph d'Arimathée, qui était venu réclamer le corps de Christ à Pilate, était un disciple de Jésus en secret. Là, nous allons rencontrer un docteur de la loi, un pharisien qui n'est absolument pas un disciple de Jésus et qui vit cette opposition au Christ absolument pas en secret non plus. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, nous plongeons dans ces écritures saintes, conduites et inspirées par toi, dont tu as conservé, Seigneur, la transmission jusqu'à nous, de sorte que, habités par ton esprit, nous pouvons les lire en toute confiance pour t'y rencontrer, comprendre qui tu es. Et ce matin, nous voulons te voir à travers ce que tu nous racontes, te comprendre, changer notre façon de te penser pour te laisser nous montrer qui tu es, pour te laisser toucher notre cœur par qui tu es. Amen. Luc 10, verset 25, la très célèbre parabole du bon samaritain. Un spécialiste des Écritures intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Comment le comprends-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le spécialiste des Écritures voulait se justifier. Il demanda alors Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Alors Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent. Ils lui prirent tout ce qu'il avait, ils le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait cette route et quand il vit le blessé, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Puis de même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit le blessé et passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Et quand il le vit, il fut bouleversé, il s'en approcha davantage. Il versa de l'huile et du vin sur ses blessures et le recouvrit de pansements. Il le plaça sur sa propre bête et le mena dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui. » Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces trois hommes te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ?» Le spécialiste des Écritures répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va, et toi aussi, fais de même. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, un spécialiste des Écritures vient voir Jésus pour le prendre au piège, pour chercher à ce que Jésus sorte une doctrine un peu farfelue avec laquelle il pourra « Ha ha, vous voyez, il rompt avec nos traditions, il n'est pas blablabla. » Voilà. Cherche une occasion de l'attaquer, comme si voilà, on va chercher à demander à un politique des questions par rapport à l'Ukraine, par rapport voilà, les questions un peu tordues ou c'est il y a plein d'attentes fortes, il y a plein de d'opinions de parti pris, ce qui fait que ça peut cliver. Ce docteur de la loi, c'est quelqu'un qui connaît le l'Ancien Testament, mais comme sa poche, quoi. Répond à la question. C'est ça un peu le. Et donc c'est très adroit de la part de Jésus. Parisien. Que dit la loi? Comment la comprends-tu? Un Parisien, il peut pas dire je ne sais pas. Il peut pas dire je ne comprends pas. Son métier de. Une opinion dessus, et il est en public, il ne peut pas se désavouer, alors il répond. Et alors on pourrait se poser tout de suite, bon. Le pharisien dit, la loi dit que pour avoir la vie éternelle, il faut aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de toute ton âme, et aussi ton prochain comme toi-même. Voilà. Et Jésus lui dit, ben ok, très bien, fais ça, et tu vivras. Non pas à la foi en Dieu, mais à la loi. Obéit, aime Dieu de tout cœur. Et Jésus vous dit quoi? C'est la nouvelle alliance, c'est maintenant, c'est le salut par la foi, donc arrête avec ça, c'est pas ça. On devrait s'attendre à quelque chose comme ça, mais non, Jésus lui dit, impec, nickel, vas-y, tu fais ça, et tu vis. Et en même temps, Matthieu a raison de souligner, le défi est élevé. Et sans doute, le pharisien le sait-il. D'où sa réaction de dire, bon, mais, ok, mais, c'est qui mon prochain? Il faut pas qu'il perde la face, il faut que ça reste difficile. Bon, il cherche quelque chose pour pas avoir l'air de s'être mis lui-même dans une fosse avec sa réponse. Et Jésus raconte cette petite parabole du bon samaritain. Alors c'est marrant, hein, on dirait un peu la forme des blagues. Alors voilà, il y a un Français, un Belge et un Allemand qui sont dans un avion. Il y a un lévite, il y a un prêtre, et puis il y a un samaritain. Alors on s'attend à ce que tout tombe sur le samaritain, parce que, je vous le rappelle, pour les bons juifs de la Judée, le samaritain, c'est des sans-mêlés, c'est des bâtards. Ils ont des origines juives, mais ils se sont mariés avec des non-juifs aussi. Puis ça fait des siècles. Et puis en plus, voilà, ils nous ont attaqués, et puis nous, on leur a détruit... leur lieu de culte, et puis eux, ils se sont vengés, et puis voilà. Puis c'est un truc comme Israël et la Palestine, où vous voulez essayer d'émêler les chevaux, c'est impossible, quoi. Donc une haine fratricide et réciproque, ancestrale, joyeuse. Et donc si on met à côté, dans une histoire, un lévite, donc le lévite, si vous voulez, c'est le... Alors, d'abord, là, le prêtre, il fait partie de la lignée, de la tribu, de Lévi, donc il a le droit de servir dans le temple, mais lui, il va jusque dans le lieu très très saint, voilà. Il peut rentrer dans cette présence de Dieu, c'est le nec plus ultra. Puis l'autre, il va officier autour du temple. Il va s'occuper de renouveler les instruments, etc. Donc il a un accès à Dieu très proche aussi. Mais alors le samaritain, c'est la lie de la société. Enfin, c'est même pas partie de... C'est un faux juif, quoi. Ok. Donc Jésus, il les cache, là. Le prêtre arrive, il voit l'homme... Je sais pas, ah, dommage. Non, il change de côté. Il change de côté. Et il s'en va. On raconte que cette route qui va de Jérusalem à Jéricho, elle est réputée. Jérusalem est en haut d'une colline et Jéricho, c'est au-dessous du niveau de la mer. Donc, c'est une sacrée dénivelée, puis c'est un défilé en mode un peu canyon, c'est juste parfait pour des embuscades. Parfait. On peut lui trouver plein d'excuses à ce prêtre. Des excuses pratiques, ça se trouve les brigands sont encore là, faut pas que je traîne, si je m'arrête, moi aussi je vais me faire avoir. Ou des excuses spirituelles. Ah, si je touche cet homme qui est couvert de sang, je vais être souillé, je vais devenir impur et je pourrai plus officier au temple et auprès de Dieu. Donc, je dois choisir entre aider cet homme ou servir Dieu. Et je dois servir Dieu d'abord. Bon, en fait, la Bible dit rien. La Bible dit juste que il n'y a pas eu de compassion. J'ose dire qu'il n'y a pas eu de compassion parce que c'est précisé pour le Samaritain que lui, il a eu compassion et qu'il s'écarte. Le Lévite, pareil. Mais le Samaritain, il est touché par cet homme. Ce qui lui arrive l'affecte. Il s'approche, il s'arrête. Il soigne ses plaies. L'huile et vinaigre, c'est le pansement de base. Il lui fait des pansements, peut-être avec ses propres vêtements, on ne sait pas. Il le met sur sa bête de somme, c'est sans doute un âne. Et il l'emmène à l'auberge. Et là, il en prend soin, encore. C'est déjà bien. Il pourrait se barrer et dire, écoute, aubergiste, voilà, je fais tout ce que j'ai pu, j'ai du business qui m'attend, je te le laisse. Et auquel cas, l'aubergiste peut-être s'en serait occupé. Puis quand l'homme se réveille, sort de son coma, ah oui, il y a un homme qui t'a ramené ici, il t'a sauvé la vie, et puis moi, j'ai pris soin de toi, ça fait... une semaine et demie que t'es là et au fait tu me dois tant. Et le gars s'est fait dépouiller. Comment on faisait au premier siècle quand on avait des dettes et qu'on ne pouvait pas rembourser? T'as pas une idée? Voilà, esclave. T'es esclave jusqu'à ce que la dette soit payée. Tout simple. Mais que fait le Samaritain? Il donne des sous, et si jamais, il m'aide en fait, qui me... Et on voit... Alors, le pharisien, il est pas bête, il comprend. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Hein? Il place la barre encore plus haut. L'homme sur la route, il est impuissant. Il est écrasé. Il est sans force. Il ne peut pas se sauver. Vous êtes d'accord? Notre bon pharisien, au moment où il énonce lui-même la loi de Dieu, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même », et que Jésus lui dit « Va, fais cela et tu vivras », il est en fait dans la même situation. Il est écrasé, terrassé, et incapable de se sauver face à la loi. Vous voyez ça ? Jésus, à travers cette histoire, la scène présente là, dans ce dialogue entre Jésus et ce pharisien, qui est l'ennemi de qui ? Qui est l'ennemi de qui ? Pardon ? Il y a deux hommes qui sont en train de parler et il y en a un qui est l'adversaire de l'autre. C'est qui ? Voilà. Le docteur de la loi est l'adversaire, il est l'ennemi de Jésus. Il veut le piéger, il veut sa perte, d'accord ? Et dans l'histoire que raconte Jésus, l'adversaire, l'ennemi, parfaitement incarné par le Samaritain, est celui qui vient sauver l'homme sans force. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ? Ce que Jésus est en train de faire à travers cette histoire, il est en train de tendre une main à ce pharisien. Même nous qui connaissons toute l'histoire, nous savons que Jésus, il va effectivement payer le prix de notre salut. Nous savons que Jésus, il va nous ouvrir un compte de grâce illimité. Nous savons que Jésus vient nous... Jésus le confronte. Mais tu veux être sauvé par la loi? C'est impossible. Mais vas-y, fais-le, je t'en prie. Tu veux parvenir à la justice, à la vie éternelle en obéissant. Tiens, un samaritain, ça incarnerait bien tout ce dégoût que tu éprouves pour moi. Eh ben, moi, je m'arrête. Moi, je prends le temps de te soigner, je me mets à marcher à tes côtés. Et toi, je te laisse te faire porter par mon âne. Je te conduis jusqu'à l'auberge et là, je paye pour toi. Toi qui me détestes. Toi qui veux ma perte, toi qui viens me voir avec de la fourberie dans la bouche pour essayer de me faire perdre. Et nous avons besoin que quelqu'un s'arrête, nous sauve et paye pour nous. Et dans son grand amour, Dieu. Alors, quand bien même nous nous serions comportés en adversaire contre lui, en ennemi, s'arrête, descend, nous prend, nous sauve et paye pour que nous ressortions guéris et libres. Alors, on imagine souvent que cette parabole du bon samaritain, c'est une parabole bien moraliste pour nous dire qu'il faut être gentil avec les gens, hein. Faut rendre service, faut, d'accord? D'abord, c'est une parabole qui nous enseigne à nous laisser sauver par grâce. Ce n'est pas l'obéissance à des règles qui nous rendra juste. C'est impossible. La loi de Dieu est trop pure, trop parfaite, trop exigeante, trop totale. Je dois abdiquer mes prétentions face à ce monument de justice. Je ne suis qu'une poussière face à ça. Mais au pied de ce immense édifice de loi, il se tient un homme, la main percée, qui me tend la main et qui me dit « tout ça, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait. Je te l'offre. Toute cette justice que tu cherches à atteindre, je l'ai. Je vais t'en revêtir. Je vais te revêtir de ma justice. De sorte que, quand Dieu mon Père posera le regard sur toi, il te verra parfait. parfaitement juste. Et là, vous regardez Jésus avec votre propre manteau, tout sale, à vous. Il dit ça, tu me donnes. C'est moi qui le porte. Je m'en occupe. Et cette loi que les pharisiens s'évertuaient à utiliser pour asservir le peuple. Tu dois faire ça, vous devez faire ci que ça. Puis eux, du coup, ils étaient au top, ils étaient l'élite, ils étaient en haut. Grâce à cette loi, ils étaient parvenus. C'est pour ça qu'ils l'aimaient tant. C'est pas parce qu'ils la trouvaient superbe, c'est pas parce qu'ils pensaient qu'elle allait les sauver, c'est parce qu'elle leur donnait un statut. Sauf exception, comme on a pu voir Nicodème, Joseph d'Arimathée, qui ont vraiment cherché le Seigneur. Il vient provoquer Jésus, utiliser la loi à ses propres fins. Jésus nous en délivre. Jésus ne cherche pas à ce que nous soyons écrasés par elle. Jésus ne cherche même pas à ce que nous vivions par elle. Jésus cherche à ce que nous vivions par lui. Par lui. Alors, devons-nous dire que cette parabole ne nous encourage absolument pas à venir au secours de notre prochain ? Oui, nous sommes encouragés à venir au secours de notre prochain. Mais, parce que nous-mêmes, nous avons été secourus. Parce que nous-mêmes, nous avons été secourus. Nous ne venons pas au secours de notre prochain dans l'espérance qu'à force de secourir notre prochain, nous gagnerons le ticket d'entrée à la vie éternelle. Mais c'est parce que nous avons bien compris l'amour de Dieu qui nous aime au point de mourir pour nous et qui nous garantit la vie éternelle qu'à notre tour, nous venons au secours de celui qui se perd, dans un élan de reconnaissance, dans un esprit de faire couler. Et alors, est-il encore question de qui est mon prochain ? Y a-t-il des personnes en qui vous devez être bon et d'autres à qui vous ne devriez rien ? Que lui vous tendrait quand même une main secourable. Vous savez, il a dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu détesteras ton ennemi, œil pour œil, dent pour dent, blablabla. Et Jésus dit, moi je vous dis, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. En fait, c'est exactement ce qu'il est en train de faire là. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il y a un homme qui vient pour chercher à le perdre. Et lui, à travers ses petits stratagèmes de parabole, il est en train de chercher à le sauver. Moi, j'ai baratiné Jésus pour qu'il se perde et lui dit, comment est-ce que je peux l'amener à comprendre son état ? C'est la classe. Non, il est trop bon quand même. Il est trop bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est pas bien de vouloir perdre Jésus, vous êtes d'accord ? D'ailleurs, ça ne vous arrive jamais. Mais il y a bien des moments où vous avez le sentiment de ne pas être hyper clean avec le Seigneur. Surtout moi, vous peut-être moins, mais moi ça m'arrive. Vous voyez comment il réagit par rapport à ce pharisien qui vient pour le perdre ? Voyez la bonté qu'il manifeste ? De revenir voir Jésus ?
parce que ça c'est, on n'a pas été hyper clean.
Comme nous peinons à croire que Dieu est trop bon. Comme nous peinons à nous emparer de la profondeur de l'amour de Jésus pour nous. Comme nous supposons trop facilement que nous allons le lasser, que nous allons l'aigrir. C'est 1 Jean 4. 1 Jean 4. Verset 7. Très chers amis, dit Jean, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Toute personne qui aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Ça, c'est le Samaritain qui se sacrifie pour le Juif là. Et, verset 10, voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils qui s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Très chers amis, si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. La base, christianisme, le cours 1.A.0, christianisme de base, vous ne pouvez pas être un chrétien si vous ne vous laissez pas aimer par Dieu. C'est foutu, aucune chance, rien, nada. Vous n'irez nulle part dans la foi chrétienne, nulle part, si vous ne vous laissez pas aimer par Dieu. Vous allez bâtir un empire, une cathédrale de légalisme, de dette, de culpabilité, de sacrifice pour essayer de plaire. Et même les gens autour de vous vont dire « Lui, c'est un super chrétien. » Parce que quelque part, on y croit encore, hein, ça. En vrai, c'est de la paille. Christianisme de base 1.1. Dieu m'aime. Et si j'en doute, je regarde Jésus. Et tout ce que fait Jésus et tout ce que dit Jésus, c'est Dieu qui le fait. Si vous voyez Jésus éternuer, vous pouvez dire « Ah, un jour j'ai vu Dieu éternuer. » Vous voyez Jésus rigoler, vous pouvez dire « Un jour, j'ai vu Dieu rigoler. » Vous voyez Jésus laver les pieds de ses disciples, vous dites « Ah, Dieu lave les pieds de ses enfants. » Vous voyez Jésus mourir sur la croix. Et donc Dieu m'aime. Amen.